Les voix de femmes.
Des choses genre.
Голос женщин.
صدای زنان.
Генерас мунит.
Мусол лала денди.
Une conversation libre sur les conditions de la femme entre femmes de ici et d'ailleurs. Bonjour à tous, les voix de femmes avec Lisa Karimi et bienvenue encore une fois autour de table avec les femmes de différentes origines et citoyennes françaises, comme toujours. Et donc, je vais rapidement expliquer un peu le thématique. Et Alice, elle est là avec nous aussi.
Et bonjour. Je suis là. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et donc, le thématique d'aujourd'hui, donc c'est comment les citoyennes françaises peuvent aider les étrangers et les réfugiés intégrés dans les sociétés françaises. Récemment, on a vu beaucoup les crises vis-à-vis des réfugiés par tout le monde, qui augmentent toujours. Et j'aimerais savoir, est-ce que l'intégration, ça joue leur rôle? Et si oui, est-ce que les citoyens français jouent leur rôle aussi? Et en même temps, j'aimerais bien aussi savoir par rapport à l'expérience que vous avez vécue déjà pendant votre parcours, les citoyens français qui rencontraient l'étranger et aussi l'étranger qui ont rencontré les citoyens français. Donc, c'est au gros notre thématique d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va déjà commencer par votre présentation et je vous laisse vous présenter vous-même avec votre prénom, si vous voulez. Bah, voilà, on est parti. On commence par vous, Sylvie.
Alors, Sylvie, j'ai un parcours un petit peu avec plusieurs épisodes dans ma vie. J'ai, il y a longtemps, travaillé en Afrique. Pendant 2 ans, au nord du Cameroun. Puis après, j'ai été pédopsychiatre avec des locaux dans la ZUP, où du coup, ça m'intéressait aussi de pouvoir accueillir souvent des mères avec leurs enfants et toutes les difficultés que ça pouvait représenter. À la fois, je ne faisais pas du tout le parcours d'intégration et de reconnaissance, de pouvoir accéder aux papiers, mais de pouvoir essayer d'aider sur des parcours compliqués. Mmh. Et des fois avec des enfants bien, bien malades. Après, j'habitais très loin à la campagne, donc la rencontre était plus compliquée. Et puis, très récemment, grâce à la danse, on a fait des rencontres absolument extraordinaires.
D'accord.
D'amitiés qui se sont créées. Voilà.
Et donc, pendant votre parcours de danse, vous rencontrez les réfugiés, les immigrants aussi, ils viennent vers vous.
Alors, je ne vais pas prendre tout le temps, mais avec Simon Choplin, qui était chorégraphe à l'époque, il a voulu monter une création justement à ce propos, sur la rencontre, ça s'appelait Nous sommes tout le monde. Du coup, on a pu danser avec beaucoup d'Africains en fait. C'était voilà. Et puis, ce qui a été un moment assez extraordinaire, parce que par la danse, il passe plein de choses.
Et
on n'a pas besoin forcément de se raconter avec les mots, on peut se raconter avec le corps, ou s'exprimer en tous les cas avec le corps, avec des rencontres assez extraordinaires. Et comme l'association de danse est une association de seniors, la rencontre des corps était en fait assez simple. Voilà. Et ils ont finalement beaucoup appris le français.
D'accord.
Parce qu'on a partagé une dizaine de jours ensemble. Et on continue à accueillir les personnes qui veulent. Du pays qui viennent, s'ils ont envie de venir danser avec nous, ils peuvent venir danser avec nous.
Donc voilà. J'avais bien joué votre rôle d'intégration. Par contre, vous avez aidé au niveau de français, vous avez aussi aidé au niveau de portes ouvertes vis-à-vis des immigrants. Est-ce que ça soulageait un peu la vie de immigrants ou pas?
En tous les cas, ce qu'ils avaient pu dire, mais ils sont arrivés, donc c'était en 2019, donc dans le département, c'était encore assez accueillant. Ils ont pu dire qu'ils s'étaient sentis très accueillis à Blois. Je ne sais pas si des personnes arrivant maintenant pourraient dire la même chose, parce que je pense que ça n'est plus du tout le même contexte quand même. Ils ont tous eu leurs papiers. Possiblement, en plus, leur participation à la création a aidé aussi, puisqu'ils s'étaient intégrés d'une manière ou d'une autre, même s'ils avaient fait plein d'autres choses pour la plupart.
Bien sûr.
Pas tous. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce ne serait pas tout à fait la même situation plus.
On va revenir vers cette question-là, parce que c'est vraiment le chose que, en fait, le but de choisir cette thématique aussi, c'était parce qu'actuellement, on vit dans cette crise-là, malheureusement, qu'on est vraiment contre les autres. Et comme vous avez déjà mentionné, vous avez dit que nous sommes monde.
Nous sommes tout le monde.
Nous sommes tout le monde, merci. Donc, c'est ça. On manque, je pense que cette phrase dans les sociétés actuelles, malheureusement. Ben, je reviens vers vous. Ben, bienvenue. Merci beaucoup. Et à côté, on a...
Donc, Aurore, professeure d'art plastique en collège. Moi, l'intégration, je la rencontre à travers des enfants qu'on accueille, qui viennent de pays étrangers, qui ne parlent pas du tout la langue française et souvent pas la langue anglaise non plus. Donc, c'est assez complexe de pouvoir communiquer et échanger avec eux, hein, puisque justement, on n'arrive pas trop à se comprendre. Donc c'est des enfants qui arrivent au collège, sont pris en structure, donc on appelle ça une FLE, hein, qui est une classe qui a pour vocation de leur enseigner la langue française, et en même temps ils sont intégrés dans les autres cours, les autres disciplines, et là l'idée c'est de réussir à ce qu'ils comprennent et à leur faire suivre en fait, hein, le cursus scolaire classique, donc à traduire par exemple certains cours, réexpliquer, mais c'est aussi, alors pas qu'un défi on va dire pour l'enseignement, c'est aussi un, on va dire plutôt un défi aussi social, puisque l'idée c'est aussi de réussir à les intégrer au sein des autres, et là parfois c'est même ça qui pose plus problème, hein, puisque c'est des élèves qui vont parfois avoir tendance à se sentir rejeté ou à rester entre eux, hein, puisque ne parlant pas la langue, et des fois ça met vraiment très longtemps avant de qu'ils la connaissent, ils restent souvent isolés ou entre eux, et c'est peut-être même ça le plus compliqué en fait.
Exactement, et je reviens vraiment vers cette question-là. Oui, bien évidemment, actuellement on trouve en plus les enfants, les femmes qui sont vraiment isolés, et les hommes aussi souvent, on a les hommes, peut-être vous avez aussi rencontré pendant votre parcours professionnel, qu'ils n'arrivent pas à intégrer. Donc, quand ils n'arrivent pas à l'intégrer, ça lui met en isolation. Donc, ils isolent dans un côté. Et souvent, les communautés aussi qui n'arrivent pas de lui accepter aussi, parce que je trouve que psychologiquement, quand on n'est pas dans bon état, donc on n'arrive pas à intégrer non plus. Donc, ni dans notre société, ni dans... Et surtout, par rapport aux enfants, comme tu as dit, c'est encore reste trop compliqué, parce que j'imagine qu'il faut comprendre la culture, après il faut comprendre la langue. C'est pas facile. Donc, j'aimerais aussi venir ici, vers toi, Aurore, après, et pour discuter un peu comment l'école joue la rôle, parce que c'est un établissement très important. Et souvent, actuellement, dans les grandes villes, on se trouve que beaucoup des enfants immigrants qui se trouve dans une condition très très grave, et j'aimerais savoir pourquoi en fait, est-ce que c'est un... ils donnent un peu le espérer, est-ce qu'ils ont air à espérer dans la nouvelle société ou pas. Donc j'aimerais vraiment venir vers ça. Aurore, merci beaucoup pour être là, et on passe. J'ai prononcé très mal, dis-moi, c'est Sirandou.
Sirandou.
Sirandou, merci. Je suis en mauvaise prénom. Bienvenue, je t'écoute.
Oh, bonjour, c'est Soumaré Sirandou, mauritanienne. Je suis venue en France depuis en 2024. J'ai fait un an et quelques à Blois et je suis demandeur d'asile.
D'accord, tu es toujours dans procédure de demande d'asile pendant un an. Ouais. Donc tu es venue toute seule ici.
Oui, si, je suis venue toute seule en laissant derrière moi ma maman et mon fils.
D'accord. Et c'était un parcours, tu as traversé illégal, normalement beaucoup d'immigrants qui passent par la voie illégale, ou tu as vraiment possibilité de venir ici illégal avec visa ou quelque chose?
Non, je ne suis pas venue avec visa.
D'accord.
Ouais.
Donc tu as sorti et tu as traversé lesquels pays en fait? Par quel an?
J'ai traversé par le Maroc après l'Espagne. Après...
En bateau, j'imagine, c'est ça?
Non, pas en bateau.
D'accord.
En avion.
En avion,
ouais.
Ok. Déjà, c'est bien parce que les... Et donc, pourquoi tu as choisi France?
Parce que j'étais un peu... J'étais pas sécurisée en Mauritanie. Bon, j'ai entendu qu'en France, dès que tu viens ici, tu es prise en charge. En plus aussi... tu es en sécurité et les gens vont s'occuper de toi, surtout l'État va s'occuper de toi.
D'accord. Ouais. Et si ça se passe, les secrets, les dangers que tu as rencontrés là-bas, tu peux, un gros mot, tu peux le dire, est-ce que c'est un danger familial, c'était danger par exemple au niveau de société, culturel
Tu sais, en Mauritanie, on a une éducation que même si tu es en danger familial, tu ne peux pas en parler.
D'accord.
Des fois, on le gère en famille. Mais ailleurs, entre nous, les citoyens mauritaniens, il y a un peu le racisme et l'esclavage.
L'esclavage aussi, actuellement.
Ouais,
ça existe toujours. J'appelle ça aussi esclavage moderne. Peut-être un jour, on va parler par rapport à ce sujet aussi.
Ouais, parce qu'on a plusieurs ethnies différentes. On a 4 langues nationales.
D'accord.
Et on a des différents temps. Il y a des blancs et il y a des noirs.
D'accord.
Donc, voilà quoi.
Ok. Et maintenant, juste un mot. Bien sûr, je vais revenir au niveau d'intégration. Dis-moi, est-ce que tu sens maintenant actuellement en sécurité ou pas?
Oui, si.
Ça dans
maintenant, je me sens en sécurité et je suis dans une association qui s'occupe très bien de nous.
D'accord.
Qui est le HUDA.
Ok, bah, bravo. Ok, bah, bienvenue. Comme, on a beaucoup de femmes fortes, immigrants et réfugiés qui viennent ici, qui passent un parcours extrêmement difficile. Et c'est extraordinaire, en fait. Il faut... vous voyez, il y a des associations qui aident, mais parfois, les femmes qui ne se trouvent pas cette aide-là. Donc, ça aussi, je trouve que ça joue aussi un grand rôle dans l'intégration des étrangers. Et bien, bah, écoutez, ici, je vais faire traduction, mais général, pas comme mon métier mot par mot. Ok, so you want to speak in English or you want to speak in French?
In English. Yes.
Okay, perfect. So can you just introduce yourself?
I'm Manik from Sri Lanka.
Okay. And you are here since?
I live in Blois right now with my son.
Okay.
Since 1 year, we live in Blois. My son study in the Ecole Rabel.
Okay.
Rabelais.
Okay.
Yes, we both live in Blois.
Do you have your papers already or not?
No, yet not yet.
Not yet.
We will make try to make appointment for opera.
Okay. You still don't have an appointment for opera? Okay.
No. They will. We will make our story for there. We waiting for a time to opera.
Okay, and tell me please, like, why did you choose France?
Actually, my story is so much different for others because I like so much France. I live in Sri Lanka. That time my dream country is France, but I don't need to come like that way for France right now stay. Because in Sri Lanka, I have a great life with my family. I'm so much sensitive to this topic. Yeah. I don't need to talk, but I don't know today we talk like...
Yes, for sure you can talk about that. But okay, so basically you had a great life there, but you had any problems between your family?
Yes.
Okay.
Yes, because we did in Sri Lanka tourism hotel.
Okay.
We have a family business with tourism, few hotels.
Okay.
So Sri Lankan... politician things and some smuggling things, many that kind of horrible things happened between my family. So I think 2 weeks we decided for go some country.
Okay.
For that time we decided go France because. It's hardly take a decision for a France.
Okay.
I will come business class visa because my authorization is all done for France immigration. So I will come for with visa.
Okay, so you came here with the visa.
Oui.
Oh, okay, perfect. Basically, je pense que tout le monde il comprend d'anglais jusqu'à là, mais j'ai quand même le traduire. Donc, madame, elle est venue avec son fils de Sri Lanka et donc il a choisi France dans 2 semaines, quoi. Donc, il avait un souci familial entre sa famille parce qu'ils ont un bon commerce là-bas et donc il avait un souci avec les choses illégales et donc à cause de ça, il voulait venir dans une autre pays. Ben, il a choisi quand même France. C'était un peu rapide, mais voilà. Donc après, il est là depuis 1 an avec son fils. Son fils qui est scolarisé. Et après, on va un peu poser les questions par rapport à son parcours. Mais avant ça, je reviens vers toi, Aurore. Dis-moi, par rapport à cette rôle qui joue l'école, pourquoi j'ai venu vers ça? Parce qu'en fait, c'est basique. C'est vraiment essentiel et j'aimerais savoir, est-ce que tu trouves que l'école, elle joue bien son rôle dans l'intégration des autres?
Moi, je trouve que c'est pas forcément parfait. Après, c'est toujours un peu compliqué, on va dire, parce que comme tout dans l'école publique notamment, on n'a pas les moyens. En fait, les moyens ne sont pas donnés de manière à pouvoir faire les choses correctement. Et donc, les enfants, oui, on leur apprend la langue, forcément. On les place dans des classes avec d'autres élèves. Mais c'est quand même des enfants qui restent finalement entre eux. Puisque on ne fait pas forcément grand chose de plus pour leur donner envie ou donner envie aux autres enfants d'aller vers eux. Je sais que par exemple dans certaines sociétés on fait un petit peu des journées d'intégration, des choses comme ça. Par exemple c'est des choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Et je pense que ça pourrait être positif en fait pour ces enfants là. Donc en fait on les place et puis on attend, j'ai l'impression un petit peu qu'ils se débrouillent un peu tout seuls, quoi. Alors oui, on leur apprend la langue, hein, je dis pas qu'on fait rien non plus, mais c'est vrai que on leur donne l'enseignement en fait obligatoire, hein, la possibilité de le suivre, mais finalement après on va dire tout ce qui est intégration parmi les autres, moi, j'ai de mon visu, c'est pas forcément des choses que je vois, en fait.
D'accord.
Parce que juste les placer dans des classes comme ça, pour moi, c'est pas vraiment intégré, en fait.
Quand tu dis qu'il n'y a pas de moyens, tu peux
moyens financiers. Moyens financiers, c'est-à-dire qu'on crée des structures pour tout type d'enfants. On a la SECPA, on a les FLE, on a les ULIS, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu d'argent qui est donné, hein, de manière à parfois acheter des choses spécifiques, des enseignants qui sont formés pour ça. Mais c'est le minimum, quoi. Voilà.
Est-ce que tu trouves que, par exemple, les professeurs, par eux-mêmes, comme humains, ils réagissent comment? Comment ils jouent le rôle d'intégration, en fait?
Quand on a un élève qui est mis dans notre classe?
Voilà. Justement, comme humain, pas de gouvernement, pas de système, pas de structure, mais comme humain.
En fait, on fait de notre mieux. Moi, ce qui me peine un peu, mais c'est pas que forcément pour les enfants qui parlent pas la langue, hein, ça va être pour ceux qui sont en ULIS, par exemple, donc ont des troubles de l'apprentissage. C'est qu'on a beaucoup d'élèves par classe, hein. Moi, on est entre 25 à 30 élèves par classe, souvent plus 30 que 25 d'ailleurs. Et en fait, moi je les vois 50 minutes par semaine, et le temps de s'occuper tout le monde, juste basiquement de lancer le cours, on n'a pas le temps. Ouais. On fait notre mieux, moi chez moi je fais les fiches, hein, j'essaie de traduire, etc. Mais c'est vrai que on n'a pas forcément le temps. Moi, il y a des élèves que je vois très peu, hein, qui parlent ou pas la langue, hein, mais je les vois tous très peu, mes élèves, en fait. Donc c'est un peu compliqué. C'est qu'on n'a pas non plus, on va dire, les moyens humains de prendre le temps pour tout le monde. Alors si on vient pas nous voir, si les élèves viennent pas nous voir, en fait, des fois c'est des élèves où on passe complètement à côté. Donc
c'est les certains que vous voyez pas, donc ouais. Ça lien aussi avec un fils de Malek, parce que j'aimerais bien poser cette question, comment il se sent, parce que c'est vraiment très haut. You know, she is a professor in the college, and you say that your son is also in the school. So we would like to know his experience during this 1 year.
Yes, his main problem is language at the moment, because in Sri Lanka he been international school, so he all language in English, but suddenly change everything. Language so much difficult for communication, teachers, children, but thanks God, it's a here teachers are so much kind heart person. I think they know how to work with the that kind of kids emotionally, and study things both help for my son for them teachers. So actually I am so much worried about first to he attend school and how he manage the things, study, and how they manage to live in normal life with the school. But thanks God, teachers, professors are so much help. So for me, easy. Mm-mm. Actually. My baby also, he don't need to absent school. So much likely he go school. So I know study will be not very well at the moment because with this language, but I can see he will be happy with his new life, with school, kids, with friends. So I think it's a good support system have in this school. Mm-hmm. Yes. Thank you.
Ben voilà, c'est vraiment les choses positives que je trouve aussi, parce que j'ai deux enfants aussi qu'ils ont intégrés ici à France, qui parlent couramment français et qu'ils ont vraiment bien accueillis dans l'école et au collège aussi. Donc c'est vraiment une chose très importante. Je trouve que pour les Français, il faut être vraiment déjà content, parce que les citoyens français, ils ont vraiment assez... Le grand parti que je voyais, c'est les gens qui aident les autres. Donc, les fraternités, ça vraiment existe et qu'on voit aussi. J'ai ma voisine qui est là, qui ne voulait pas parler avec nous, mais qui nous aide vraiment beaucoup. Vraiment, parce que c'est ça. Je trouve que quand on trouve les mains comme ça dans la société, ben, vous voyez, son enfant, il est intégré. Mais... je me pose une autre question aussi, c'est aussi à vous, parce que vous voyez, comme Malik et moi, on est venus d'un peu, une partie de société qui est un peu, je peux dire, développée, parce que c'est les gens qui ont fait les voyages, c'est les gens qui ont déjà rencontré un parcours assez différent, donc culturellement, ils sont ouverts. Donc, bien évidemment, notre enfant aussi, ils sont différents. Mais par contre, je pose cette question à vous. Par exemple, si quelqu'un qui vient, par exemple, qui est un peu fermé, qui n'a pas développé, qui ne connaît pas les règles, est-ce que votre accueil que vous voyez par vous-même et que vous voyez par les autres Français, est-ce que c'est pareil ou non? Qu'est-ce que vous pensez, Sylvia, si vous dites...
Alors... des expériences que j'ai pu avoir à la fois au niveau professionnel, puisque du coup j'avais pu recevoir, alors il y a eu beaucoup de femmes avec leurs enfants seuls, il y a eu aussi des parents. L'état d'insécurité dans l'attente des papiers n'aidait pas du tout à pouvoir être disponible pour quoi que ce soit de la rencontre ou de l'apprentissage. Alors, je suis peut-être un peu radicale dans ce que je dis, parce que je voyais aussi des enfants en souffrance et qui m'étaient adressés en tant que pédopsychiatre, mais quand même, on sentait que l'angoisse était là, mais continuellement, quoi. Il y avait trop d'insécurité sur l'avenir et comment on peut s'installer et se rendre disponible pour les apprentissages ou la rencontre, quand on ne sait pas de quoi va être fait demain et que dans l'ambiance familiale, en fonction du caractère des parents. Mais ça, c'est... voilà, comment on fait face en tant que parent à cette insécurité majeure. Ça, moi, c'est une des choses qui m'a vraiment marquée. Après, j'ai pu aussi rencontrer, alors soit au niveau professionnel, soit au niveau plus amical, des parents qui étaient plus en insécurité intérieure, psychique, et qui, du coup... n'arrivait pas à s'ouvrir non plus vers les autres, quoi. Et ça a un impact, mais c'est trop long d'obtenir des papiers. Comment on peut tenir un an quand c'est pas plus, parce qu'en général c'est bien plus long, et pouvoir accueillir et aider et éduquer son enfant.
Totalement. Je suis totalement d'accord parce que je rencontre beaucoup, beaucoup d'immigrants parce que c'est mon métier aussi, que je travaille avec eux. Et c'est ça que vous avez expliqué. Ils ont pas de temps, en fait. Ils sont assez bloqués parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Déjà, par rapport à en venir, il n'y a rien du tout. Et je trouve c'est dommage au niveau de l'intégration. J'ai aussi posé par rapport à cette question, par rapport à ce sujet, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la loi française... Est-ce que ça donne un peu de calme pour les migrants ou pas? Alors, tu voulais répondre.
Je me permets de prendre la parole parce qu'il se passe quelque chose, moi en ce moment, qui me semble fondamental. Vous avez parlé, pour moi l'intégration elle passe par la langue, notamment par l'apprentissage de la langue. Jusqu'à peu, les cours de français étaient financés. Notamment, il y avait ce qui s'appelle les cours dispensés par l'OFI, l'Office français d'immigration et de l'intégration. C'était des cours qui étaient en présentiel, c'était des cours qui étaient obligatoires, c'était des cours qui permettaient d'avoir le niveau A1, qui on va dire le niveau de base, qui permet d'avoir quelques mots en français. Et ces cours-là, voilà, c'était les étrangers qui arrivaient allaient à l'OFI quand ils arrivaient, signaient un contrat d'intégration républicaine, voilà. Et donc ils s'engageaient à suivre ces cours. À la fin, il fallait qu'ils obtiennent le niveau A1 pour obtenir des papiers. Voilà. À compter du 1er janvier 2026, les règles changent complètement en lien avec cette loi immigration. Donc désormais, il faudra un niveau A2 minimum. Un niveau A2 minimum, ça ne s'obtient pas en claquant des doigts. Pour obtenir la carte de 10 ans, il faudra un niveau B1. Le niveau B1 est difficile. C'est un niveau qui garantit une autonomie complète en France. Et pour obtenir la nationalité, il faudra le niveau B2. Autant vous dire que les candidats à la nationalité, on va les compter sur les doigts de la main. Yes. Je reviens à l'OFI, donc déjà voilà, les niveaux de linguistique augmentent pour obtenir des papiers, pour obtenir le minimum. Et l'OFI, le nouveau marché qui a donc commencé cette année, stipule que donc les cours ont lieu à distance. Donc désormais,
avec application.
Voilà, les étrangers, donc on s'imagine, moi je m'imagine, je débarque en Afghanistan, je ne connais pas le Dari, j'ai jamais entendu cette langue, je ne sais pas l'écrire, je vais devoir apprendre le Dari en un an à distance. Voilà, c'est ça la situation. Donc, quid des Éthiopiens qui ont un autre alphabet, des arabophones qui ont un autre alphabet. Enfin, beaucoup d'étrangers ont un autre alphabet, hein, tout le monde ne parle pas. Rares sont les étrangers qui arrivent en France et qui demandent des papiers et qui parlent anglais. On va dire qu'avec des langues, l'anglais, on a le même alphabet, on peut s'en sortir à peu près. Donc voilà la situation en France. Donc je ne suis pas sûre que ce soit grâce aux autorités qu'on garantisse l'intégration des étrangers. Et je reviens juste sur ces cours de français. Seules les personnes qui ont donc le plus gros corpus d'heures, à savoir 600 heures, donc les personnes qui vraiment n'ont aucune notion de la langue française, auront le droit de suivre ces cours en présentiel. Voilà. Mais il faut qu'en 2 ans, ils aient obtenu niveau A2. Voilà. Pour des personnes qui ne sont jamais allées à l'école dans leur pays,
c'est ça,
qui ne savent même pas écrire leur langue, on va leur demander d'avoir plus qu'un niveau, c'est-à-dire qu'on est plus qu'à de l'alphabétisation. Hein. Le niveau A2, on sait parler, on comprend, on sait écrire une petite carte postale, on sait comprendre un texte. Voilà, 2 ans.
Tout à fait. Ouais.
Donc voilà un petit peu les conditions d'intégration en France, grâce à cette nouvelle, grâce ou à cause de cette nouvelle loi immigration. Donc, ce n'est pas ça qui va nous faire progresser.
Voilà. Et comme tu dis, que l'intégration, ça commence avec les compréhensions de langue. Déjà, au niveau de, on a discuté un peu au niveau de crimes. Tu vois maintenant les augmentations de crimes qui a commis par l'étranger. Pourquoi, en fait, ça aussi, c'est l'intégration qui joue le rôle. En fait, c'est l'étranger qui vient ici, donc il ne comprend pas du tout par rapport à la loi française. Parce que pour expliquer déjà la loi française, tu as besoin de compréhension de langue. Mmh. Et donc, en plus, voilà, je ne pense pas les crimes très graves, je pense déjà les choses très petites. Dans le quotidien, on a besoin de beaucoup de choses à apprendre, des règles, des choses à suivre dans l'école, dans la route, partout, quoi. Et bien, il y a toujours les grands barrières.
Oui, quand tu parles de crime, On veut plutôt parler de Delhi.
Oui, ouais. On parle de Delhi aussi. Et après, bah, Delhi, que petit à petit, voilà, ça, quand on isolait les gens dans une côté, bah, après Delhi, ça change en crime aussi, je trouve. Parce que je trouve aussi, oui, quand le plus que tu as isolé, donc psychologiquement, tu as un peu mal à comprendre tout. Et donc, tu passes souvent sur les choses mauvaises, quoi, pour t'en protéger ou pour avoir quelque chose de bien, quoi. Et j'ai pas oublié de traduire partie de Malik. Il a dit que son enfant, il est bien accueilli ici à France. Il est bien accueilli, donc il vous remercie grâce à l'école. Donc son fils, il arrive de partir de... il a dit que j'avais inquiétude par rapport à ça. Si le lendemain, mon fils, il ne veut pas y aller à l'école, qu'est-ce que je veux faire? Mais heureusement, par rapport les accueils des professeurs, c'est grâce à eux qu'il a, et son fils, il arrive de partir à l'école, qui arrive d'apprendre la langue. Donc, bien sûr, je trouve que c'est un grand côté positif des établissements, des écoles. Et souvent, je raconte les maîtresses qu'ils sont vraiment assez sympas. Et maintenant, pour changer un peu de sujet de l'école et pour aller vers côté psychologique, et je pose une question à toi. Dis-moi, au niveau de comment tu te s'intégrer ici, au niveau d'intégration, tu sens comment en fait? Parce que tu n'as pas de barrière de langue déjà, c'est très important.
Ouais. Bon, comment je me suis intégrée ici à Poix, ouais, ou bien à fond?
Bah,
parce que j'ai fait
ton expérience ici.
Bon, j'ai fait 2 mois avant de venir à Blois.
D'accord.
Bon, le jour où je suis venue, j'étais accueillie, très bien accueillie par l'association.
Mm-hmm.
Bon. J'étais très bien accueillie par l'association et j'avais pas de problème vu que je parle la langue et je l'écris aussi très bien.
D'accord.
Parce que j'ai fait tant d'années d'études en Mauritanie.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, en Mauritanie, tu peux étudier alors que tu ne travailles pas avec...
Mm-hmm. Donc tu n'as pas le droit de travailler?
Oui, tu as le droit de travailler, mais tu disposes et on ne te prend pas...
Ils ne t'apprennent pas?
Oui. Okay. Juste des stages et puis ça passe.
C'est parce que tu as une femme?
Pas ça. Parce que en Mauritanie, eux, ils ne sont pas trop développés.
Mm-hmm.
Et il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi et tout.
D'accord.
C'est ça.
Mm-hmm. Si on sort de l'association, ouais, on vient vers la société française.
Ouais.
Est-ce que tu as rencontré les choses hein, plutôt positives ou plutôt négatives? Ben, c'était comment ton expérience? Bah, hors de l'association, bien sûr.
Lorsque je suis venue 2 mois avant de venir ici,
mm-hmm,
j'avais un peu de difficultés. Je n'avais pas quelqu'un qui va m'héberger. Des mm-hmm fois, je passe la nuit dans la rue. C'est un peu compliqué.
D'accord.
Mais lorsque mm-hmm je suis venue ici, maintenant, tout ça va.
D'accord. Depuis que donc là-bas, c'était compliqué parce que c'est le gouvernement qui ne voulait pas t'accueillir ou c'était non, comment en fait? C'était au niveau de procédure?
Le début, je ne savais pas comment.
Ah, comment le faire?
Ouais, comment le faire et comment. Je n'avais pas les contacts de l'OFI.
Ah, explique-moi un peu. Donc, tu rentres en France et ouais, donc pendant 2 mois, ouais, tu ne sais rien du tout.
Ouais.
Et comment tu as débrouillé? Donc, tu étais où en fait?
Lorsque je suis venue, j'étais chez des parents.
Chez des?
Mes parents.
Des parents,
ouais,
qui habitent?
Qui habitent à Paris.
D'accord, ok. Oui, et ok, donc quand même tu as été...
Oui, il y a mon mari qui est là, mais lui aussi, il est comme moi. Donc j'étais chez sa sœur. J'ai fait quelques jours là-bas. Après, ils m'ont mis dans la rue vu qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas de place pour moi et tout. C'était un peu compliqué.
D'accord.
Ouais. Okay. Aujourd'hui, ils m'hébergent. Demain, je passe dans la rue jusqu'à ce que j'ai eu les contacts d'Ophi. Après, j'ai appelé et ils m'ont dit qu'ils vont m'amener à... c'était pas à Blois. Ils vont m'amener à Les Aubrais.
Et tes parents qu'ils ont à Paris, donc ils n'ont pas une formation non plus? Tes parents,
ouais,
tu as dit qu'ils sont à Paris, c'est ça?
Oui, ils sont à Paris.
Donc, ils sont à Paris depuis?
Depuis longtemps.
Depuis très longtemps. Ouais. Ils n'ont pas une formation par rapport aux filles, par rapport aux démarches et tout ça? Ils ont passé par une autre démarche?
Non, ils n'ont pas accepté à m'aider.
Ah, ils n'ont pas accepté ta idée. Ah, tes parents, ils n'ont pas accepté
non,
ta idée.
Non, ce ne sont pas mes parents, ma mère, ce ne sont pas mes pères, mon père, ce sont des cousins.
Ah, d'accord.
Ouais, c'est la famille d'Al.
La famille.
Ouais.
Ok, ça marche. Ben, on a déjà souci entre nous, quoi. Oui, c'est ça, les gros problèmes. Ok, bah, maintenant, on va partir vers une musique. Une musique qui était choisie par moi. C'est une musique afghan. J'ai vos invités. Écoutez. Alice, tu es prête?
Je suis prête.
Bah, on y va, on va écouter et un peu, vous me dites.
Thank you.
les voix de femmes sur Studio Zeuf. Ben, on est de retour. Ben, déjà, comment vous trouvez cette chanson-là, cette musique? Est-ce que c'était un peu quelque chose que vous avez déjà entendu ou pas, cet instrument musical? Déjà, Sylvia, je te pose cette question-là. Tu fais des danses?
Je suis pas forcément la bonne personne parce que j'ai pas autant je danse, autant j'ai pas une très bonne oreille musicale, donc j'ai un peu du mal à identifier les instruments. C'est aussi voilà. quelque chose qui donc, n'est pas inconnu à mon oreille, mais je ne vais pas aller plus loin.
C'est sûr. Et toi, Horreur?
Moi, j'avais jamais entendu. J'ai l'impression que c'est un instrument à cordes, mais je suis pas sûre. Donc, mais en tout cas, ça faisait joyeux et c'était agréable.
C'était un peu, vous voyez, dans notre culture afghane, on est trop quelqu'un qui adore mariage. Donc, c'est notre grande fête et pendant ce mariage, on organise ce qu'on peut. Et c'est pour ça, c'est assez musique vraiment qui est musique de danse. Non, notre danse est un peu calme, donc voilà, c'est ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette musique, et c'est très traditionnel, parce que c'est ce genre d'instrument, je pense que c'est rare ici à France. Donc j'imagine que c'est bien à écouter, un peu de différences culturelles, quoi. Ok, bah, maintenant je reviens vers les questions qu'on a posées par rapport à... Vous avez dit que actuellement la France, c'est pas la même... pays qui était en 2019, qui était accueillant vis-à-vis des immigrants et vis-à-vis des réfugiés. Donc j'aimerais savoir votre expérience aussi. Pourquoi vous pensez ça, en fait? Pourquoi, qu'est-ce que vous avez vu à ces niveaux, Sylvia, si, parce que c'est vous qui parlez par rapport à ça, si vous pouvez un peu donner quelques exemples de différences.
Alors, je ne sais pas si je connais assez bien le sujet pour être très très précise, mais... ce qui m'avait intéressé, c'est qu'effectivement, grâce à l'association de danse, on a pu danser avec pas mal, enfin, avec un certain nombre, pas mal, je sais pas, mais un certain nombre de demandeurs d'asile. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont tous leurs papiers et ils pouvaient tous dire qu'ils s'étaient bien, ils s'étaient sentis bien accueillis à Blois. Voilà, ce qui m'a fait plaisir parce que j'étais pas complètement sûre qu'ils soient si bien accueillis en France. Dans tous les cas, certains avaient des parcours sur Paris qui avaient été assez dramatiques. Vous avez tout perdu, quoi. Hein, faute d'avoir été régulièrement rudoyé, je vais dire ça comme ça, par les forces de police. J'ai été alertée aussi par la création de l'association Pas d'enfants à la rue sur Blois, il y a maintenant, je pense, une bonne année. Et pour essayer de suivre un petit peu cette situation, je sais que maintenant, il y a beaucoup de refus. Voire des refus presque systématiques, et je pense qu'effectivement la politique se durcit par rapport à l'immigration. Moi je suis très très questionnée parce que effectivement j'ai pu croiser des jeunes mineurs, des jeunes mineurs isolés, et je trouve que c'est scandaleux ce qui leur arrive, vraiment scandaleux. C'est-à-dire que le temps qu'on étudie leur âge pour savoir s'ils sont mineurs et majeurs, ils sont majeurs au moment où ils ont les résultats de cette enquête d'âge. Et du coup, ils n'ont plus droit à aucune aide, quoi. Ils sont à la rue. On en a entendu parler dans la presse par ailleurs, mais ils sont un certain nombre sur Blois. Alors, il y a effectivement des associations assez chouettes qui s'engagent. Mais bon.
Les bénévoles, c'est ça?
Un engagement, parce que je crois qu'à chaque fois, c'est des gens qui sont vraiment convaincus et qui passent du temps, au-delà de l'accueil qui pourrait être celui chaleureux du voisinage ou autre. Y a vraiment des gens engagés. Pour avoir amené quelque part dans une salle où il y avait une trentaine de personnes qui étaient accueillies, avec même pas de douche pour se laver, quoi. Même si la mairie avait prêté effectivement la salle, enfin c'est... Il y a un moment donné, ça se rigidifie sérieusement et on va pas vers une politique d'accueil actuellement. Enfin, c'est ce que vous disiez sur la loi. C'est sur le français, mais c'est sur tout le reste, quoi. Je crois que.
Et vous trouvez ça? Comment vous trouvez ça, en fait?
Moi, je trouve ça scandaleux. Voilà, je crois que je me réveille régulièrement en me disant mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors le temps passe et. J'essaie de faire ce que je peux, en tous les cas, au niveau de l'association. Voilà, je continue aussi à permettre à des personnes de pouvoir venir.
Et pourquoi vous pensez ça, qu'il faut permettre à la personne de venir ici?
Parce que je crois que la différence et l'acceptation de la différence est une richesse. Sinon, on crée l'étranger. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais j'en suis assez persuadée. On est tellement humble quand on ne connaît pas l'autre. C'est vraiment intéressant. Mais c'est aussi une vraie difficulté de pouvoir penser la différence et de l'accepter et de pouvoir faire avec. Mais voilà.
Et en gros, si je pose cette question à vous tous, est-ce que vous trouvez maintenant la société française beaucoup plus fermée ou beaucoup plus ouverte? Ben, vis-à-vis de politique, on a bien compris que ça changeait totalement, mais vis-à-vis de société, qu'est-ce que vous pensez? Alors, qu'est-ce que tu penses en fait? Est-ce que la société elle est ouverte maintenant par rapport à les différences ou...
Ben, je dirais que ça dépend des gens, de l'éducation surtout, mais... Moi, j'ai l'impression que, en fait, oui, ce qui est différent, finalement, dérange, hein, même pas forcément que pour les étrangers, hein, pour tout type de choses, hein, du moment qu'on ne rentre pas dans un cadre, au contraire, on est pointé du doigt et souvent, pour éliminer, on va dire, le problème, on le met à distance, en fait, hein, au lieu d'accepter, finalement, et apprendre à connaître, en fait, l'autre. Mais je pense qu'après ça a toujours plus ou moins existé, hein. Je pense que la société c'est des cases en fait, hein. C'est mettre les gens dans les cases et si malheureusement on n'a pas la bonne forme pour la case, du coup on devient le problème, ouais. Au lieu de penser que finalement c'est la case le problème.
C'est pas les personnes. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que la société il est récemment ton expérience? Tu as dit que je n'ai pas vécu bonne expérience.
Ici?
En général. Tu trouves que la société, elle est fermée ou ouverte, plutôt?
La société, elle est ouverte.
Ouverte, ouais. Mes habitants.
Vu que ce que j'ai eu ici, je ne l'avais pas.
C'est un côté vraiment positif.
Ouais.
About the French society, what do you think? It's more of a closed society or it's an open society? About the... about the immigration, about refugees. Tell me about your experience. Exactly with the society, not with the situations, not with the people who help, but basically in your daily life.
It's actually a good question, like us, because it all the time depend. It all the time depend because my experience 50-50. Sometimes I go some public place, example hospital. I went to reception. They will not much accept, but same I went to hospital. The helping social madam or someone for like us people, or Trebian. They know us. Sometimes it's not blaming thing. I think the people don't know much about the asylum seekers or refugees very well. So, but the same hospital have a place for us. The social workers kind of
professionals.
They know very well and they helping us. They kind for us. Same thing happened to me, normally I like the French. You said French people think about us. It's normal for me. I don't know. For me,
what do they think? It's normal.
Normally they didn't think about we are asylum seekers or refugees. It's normal they treat for us. Okay, example, hi Manik, where are you from? I said I am from Sri Lanka. Ha, nice to meet you. See you. Bye.
Okay,
like
so,
that.
So
if they need to say hi more, okay. But they didn't think about. We are asylum seekers or what? I don't know. For me, no much experience because my circle is very very small. I live in with my social madams and activity, the college of my like that. So they know we are asylum seekers very well. Mm-hmm. So for me, no much big problem for me. Mm-hmm. But out of things, I want to go activities. So some kind of public places, services, that time, little difficult. Mm-hmm. But normally for me, good.
Mm-hmm. En gros, 50-50. Donc, qu'est-ce que j'ai bien compris? Donc, il a dit que quand il s'est écouté professionnel, bah, c'est les professionnels de l'association, c'est l'assistant social qui connaît déjà les métiers, qui connaît les procédures et les gens. Donc, il est accueilli très bien. Mais quand même, reste côté public qui c'est là qui dérange les gens parce que, comme il a dit dans son exemple, il rentre dans l'hôpital, il y a l'accueil, et dans l'accueil, donc... Ça trouve un peu de compliqué hein, de rencontrer les gens. En même temps, dans le même hôpital, il y a un autre bureau social pour aider les gens. Bah, c'est facile. Bah, je trouve que c'est normal aussi parce que, comme il les trouve aussi, c'est normal parce que c'est les professionnels. Et donc, toujours, est-ce que vous pensez aussi ça? Donc, je trouve que beaucoup d'immigrants, ils sont contents jusqu'à le moment qu'ils sont dans la situation. Et après, le moment, par exemple, souvent les réfugiés, par exemple, qui ont eu leur statut, ben, normalement, dans le droit français, donc quand tu as eu ton statut, donc après, tu ne peux pas rester dans CADA, donc tu dois sortir de CADA, tu dois débrouiller toi-même, plus d'autonomie. Et en plus, ils ont mis en place un programme qui s'appelle Agir. Et c'est Agir qui un peu aide petit à petit, mais pas grosse aide. Et donc, beaucoup de gens, ils ont un peu perdu après être réfugiés. Donc, période de demandeur d'asile, déjà, c'est bien pour beaucoup de gens parce qu'en fait il y a beaucoup d'accueil, mais après au moment que tu as tes papiers, ben tout est fini parce que tu dois y aller vers le public et c'est là que pose problème. Est-ce que vous trouvez ça aussi ici? Oui, est-ce que vous avez aussi dans votre tête quelques exemples dans le public, quoi, comme Malik il a expliqué dans l'hôpital? Est-ce que vous trouvez ça aussi dans votre quotidien ou pas? Aurore, je sais pas, dans l'école, est-ce que tu trouves
Bah, j'imagine que c'est un petit peu comme quand on a les élèves qui sont dans les classes spécialisées et une fois qu'on les met dans les classes on va dire classiques, je pense que c'est un peu le même souci qu'on rencontre parce que bah, justement les classes spécialisées on a des professionnels qui sont formés alors que moi je suis pas formée du tout, je traduis les cours le soir en turc avec un traducteur, je suis même pas sûre que ce soit exactement correct et tout,
avec
mais...
Google Translate.
Ouais, c'est ça, mais voilà, donc je suis pas du tout formée quoi. Donc je pense que c'est un peu le même soucis, c'est-à-dire qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes une fois qu'ils sont mis en classe normale. Après, c'est des enfants qui sont super contents d'être là, hein, mais c'est vrai que bah, je pense qu'ils doivent voir un petit peu la transition entre les deux.
Bien sûr. Mmh. Et tu as parlé aussi par rapport à être isolé.
Oui, bah, c'est des élèves qui restent souvent bah, avec entre eux puisqu'ils parlent la même langue. Et puis, je pense que l'âge joue parce qu'au collège, souvent, effectivement, ils restent vraiment entre eux. Les autres élèves qui parlent français ne vont pas forcément vers eux. Par contre, bah, j'ai aussi bossé en lycée et là, c'était complètement différent où bah, il y avait beaucoup plus, de soutien et d'intérêt pour l'autre, en fait, si c'était plus ouvert. Et ils allaient plus facilement vers l'autre, ils cherchaient à aider, en fait, hein, les élèves qui ne parlaient pas la langue. Donc j'ai l'impression que c'est une question d'âge aussi, hein, où au collège, ils sont forcément plus auto-centrés, tournés vers eux-mêmes et un peu en rejet pour la différence. Hein. Ils cherchent un modèle, forcément. Donc,
Si je peux avoir un point de vue professionnel par rapport à la psychologie de ces enfants-là, donc si ils sont isolés, donc, bah, qu'est-ce que va devenir finalement cet enfant-là?
Là, je crois aussi que ça dépend des âges, hein, parce que alors le collège, c'est pour effectivement l'époque de la vie où on est plus ouvert. Enfin, on peut, mais il faut être aussi un peu tranquille intérieurement. Et on a quand même, ils ont à faire face à un certain nombre de transformations, pas complètement faciles à vivre. Après, chez les plus petits, chez les plus âgés, sans doute, c'est plus simple. Enfin, il y a plus d'ouverture, possiblement, chez les enfants. Il y a des âges assez structurants dans la vie et des âges où on dépend encore plus des parents. Et donc, chez les petits, je pense que ça peut vraiment avoir un impact. Hein, s'il y a une insécurité familiale, se construire dans l'insécurité, c'est quand même chose difficile. Et les petits, ils réagissent souvent par l'agitation. Leur manière d'exprimer leur inquiétude, c'est l'agitation. Mais l'agitation, elle est aussi là des fois pour animer les parents. et tenter de réanimer les parents. Hein. Ils les occupent à quelque chose qui serait autre chose que leur problème. En tous les cas, les petits, c'est comme ça qu'ils réagissent. Et c'est vrai que moi, je peux être préoccupée, mais je suis un peu préoccupée sur ce que la société offre de manière générale aux enfants actuellement. Donc, je pense qu'effectivement, quand on est petit, il y a une nécessité d'une certaine sécurité de base.
Bien sûr.
Qui peut difficilement leur être prévue. Après, par la suite, je crois que s'ils arrivent jusqu'au lycée, ben, y a quelque chose quand même du côté de la culture et de l'intérêt de l'apprentissage qui peut porter. Mais c'est certainement un nombre assez restreint en tous les cas. Ça, c'est ce que je pourrais dire, je sais plus. Voilà, je peux bien passer la parole.
Je te remercie en fait. Oui, c'est bien évidemment que ça dépend de l'âge, vraiment. Et je pose une autre question. Donc, c'est une question qui vient dans ma tête toujours. Est-ce que vraiment les étrangers et les réfugiés, en gros, les personnes qui viennent de différents pays, comme vous avez parlé de richesse, est-ce que ça impacte, c'est quoi l'impact de ces gens-là sur les sociétés françaises? Qu'est-ce que tu penses, Alice?
Pardon, moi je me permets. Ouais. Il est prouvé que, alors, puisque le sujet du moment, et on voit tout par le prisme de l'économie, il est prouvé que les étrangers en France, c'est un bienfait pour l'économie, parce que c'est des gens qui vont avoir des enfants, qui vont consommer, c'est des gens qui apportent une richesse entrepreneuriale aussi. Donc là, de ce côté-là, il y a absolument zéro souci. C'est une richesse parce que, mais encore faut-il, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, encore faut-il être curieux. Et en fait, on est dans un mouvement sociétal, mais qui est pas que français, qui est complètement sur le repli sur soi. Et donc, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. On a juste envie d'aller pointer la faute, quelqu'un de la faute, comme s'il y avait... il fallait trouver un responsable de tous les malheurs du monde. C'est enrichissant de rencontrer l'autre, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres problématiques. Ça permet de se décentrer. C'est fondamental. Mais en fait... je pense que c'est pas vers ça que va la société française, parce que c'est pas vers ça que va la société en général.
Merci. Et qu'est-ce que vous pensez, hein? Est-ce que les étrangers, ils donnent un peu d'impact sur la société dans laquelle vous êtes accueillis ou pas? Et si oui, quoi? C'est quoi les impacts? Par exemple, comme on a parlé de richesse, on a parlé d'économie, à ton point de vue, donc, tu penses, par exemple, comme étranger, que tu viens dans cette société-là, qu'est-ce que tu peux donner à cette société?
Pour le moment, je ne peux rien en dire parce que là, comme les demandeurs d'asile, on n'a pas le droit de travailler, on ne peut rien apporter.
D'accord.
Parce qu'on quitte d'une culture dans une autre culture. Donc du coup, pour le moment, on n'a rien à apporter.
Vous voyez, ça me dérange vraiment que quelqu'un qui vient, qui est riche et... économiquement, tu peux utiliser, c'est pas un bon mot, tu peux l'avoir en richesse de ta société, mais tu prends pas. Qu'est-ce que tu penses?
Moi, j'ai envie de réagir, parce que quand je me permets, je sais pas, tutoyer ou pas, je tutoie, de pouvoir dire que tu te sens accueilli ici et que la vie est plus facile ici que dans ton pays, mais quelle richesse d'entendre ça, quand même, de pouvoir se penser accueillant. Ce partage-là, mais moi je trouve que c'est ça la vie, c'est de pouvoir avoir cette réciprocité des échanges. Moi, ça me touche énormément et je sais que je vais repartir chez moi en ayant cette parole-là de vous deux, de pouvoir dire mais il y a quelque chose de positif dans notre arrivée en France. Oui, mais ça c'est merveilleux, et ça je crois qu'on c'est ça la vie. La vie et l'humanité, c'est ça, c'est de rencontrer l'autre à un endroit où on peut échanger des choses positives.
Tranquille aussi, la tranquillité, la sécurité et tout. Et nous aussi, vu que lorsqu'on venait, on est déjà majeur, on a nos métiers qu'on a appris au pays et on a fait l'école là-bas, on a envie de partager nos métiers avec la société, mais comme... étant demandeur d'asile, on n'a pas le droit de le faire. Bon, c'est ça qui nous coince un peu.
C'est ça. Je voulais vraiment avoir plus des informations, mais Alice, il m'a montré que... On est à la fin. Voilà, c'est toujours comme ça. Quand on adore parler et discuter avec un sujet, ben, je vous remercie tous. Merci et bienvenue. Et j'espère que vous pouvez s'intégrer bien en français. Et j'espère vous aussi de lui aider le mieux possible, comme vous faites aujourd'hui. Merci beaucoup. Et à bientôt.
Merci. 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 Okay.